les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Un roman sélectionné pour le Goncourt, une révélation québécoise qui va vous bouleverser et une surprise totalement absurde. Voici le sommaire de cette édition. C'est l'un des livres les plus durs qu'on ait eu à lire pour cette émission. La Québécoise Marie-Pierre Lafontaine raconte les sévices infligés par un père à ses deux filles, un sadique qui a martyrisé ses enfants jusqu'à l'extrême. Ce livre n'est pas un témoignage, mais malheureusement, il est inspiré de faits réels. Dans un autre registre, Karine Thuile explore avec délicatesse le consentement des relations sexuelles dans certaines sphères privilégiées. Les choses humaines foisonnent de sujets, un livre sélectionné pour le prix Goncourt. Bonjour Karine Thuile.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans cette émission. On plonge dans le petit monde des médias et un peu de la politique avec votre livre. Tout est permis dans ce monde-là, tout est excusable.
C'est des sphères de pouvoir, donc c'est des sphères où effectivement, les choses sont parfois possibles, en tout cas, ils essayent. Donc je montre dans ce livre, je raconte les rapports de force, de domination, de prédation aussi, ouais, dans des sphères de pouvoir.
Avec des saccages éventuels aussi.
Oui,
effectivement. On en arrive là. Bon, on va aborder tout cela ensemble tout à l'heure. Karine Thuile est dans la librairie francophone cette semaine. Et puis c'est la surprise de cette rentrée, le retour de Palace sur scène et dans un livre. Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gouriot revisitent les sketchs cultes et en rajoutent quelques-uns, toujours aussi absurdes.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Sophie Todescato fait sa rentrée dans la librairie francophone aujourd'hui. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Orléans dans la librairie Les Temps Modernes.
Toujours.
Tout va bien, vous avez passé un bel été vous.
Mais oui, bien sûr.
Quelques vacances.
Oui, 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 quelques.
Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, libraire dans la librairie du Square à Montréal. En Suisse, c'est Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève qui est là. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Et enfin, pour la Belgique, c'est Déborah Damblon, libraire dans la librairie La Licorne, qui est toujours avec nous. Bonjour Déborah.
Et bonjour Emmanuel.
Vous êtes en pleine forme, Déborah, ça s'entend.
Mais oui.
C'est parfait.
Ah, chouette alors.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Et bonjour Jean-Marie Gouriot.
Bonjour.
Vous publiez en ce mois de septembre Les Papillons de Comptoir, en poche chez Point. Après les brèves de Comptoir, vous avez continué votre tour de France des bars. Nous allons raconter des histoires de bars qui sont d'ailleurs dans votre livre. On commence avec ce texte hallucinant, avec des flics qui se bourrent la gueule, comme on dit, après une intervention sanglante. C'est vrai ça,
oui,
ou c'est inventé?
Vrai, oui, je les connais bien. C'était des policiers de la préfecture de police de Paris. Et il y a eu une opération très sanglante. C'est à Pigalle, voilà, que tout le monde connaît. Et donc là, ça patauge dans le sang, c'est extrêmement violent. On parle beaucoup de violence dans cette émission, mais là, elle existe aussi dans les rues de Paris, hein, vraiment. Mmh. Et donc, ils prennent ça en pleine tronche, les flics et tout. Donc, à un moment, ils boivent. Et donc, ça, c'était une soirée qui... Ça se finissait le matin dans un bar où c'est des zombies. Ils sont fatigués, ils sont sous. Ce qui fait que tout d'un coup, c'est un moment hypnotique, ils commencent à dire des choses étranges. Et là, on rentre dans un absurde violent. C'est-à-dire qu'on est dans la brève de comptoir. C'est-à-dire, c'est comique, c'est tragique, c'est profond, c'est dégueulasse, c'est la vie, c'est la violence. Et en même temps, il y a une espèce de fleur poétique qui pousse là-dessus pour essayer de sauver ces gens-là, pour sauver la partie. C'est très, très
après
étrange.
Après ce qu'ils ont vécu, c'est ça, pendant la soirée.
Et à ce moment-là, il y a un espèce de langage un peu joli, un peu léger, qui les sort du drame et qui les empêche de se suicider.
Il y a une autre histoire dans C'était mieux avant. Vous dites que depuis qu'il est interdit de fumer dans les cafés, les conversations de comptoir se font intermittentes. On sert dans la rue et le seul endroit où on ne sert pas, c'est dedans. Et en fait, on ne sert plus vraiment, on distribue de l'alcool, vous dites.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le comptoir est vide et les gens boivent dehors entre les voitures. Et les verres sont posés sur les capots des voitures. Ce qui fait que la parole est dans la rue. Alors qu'avant, il était au comptoir. Donc du coup, c'est une parole qui se disperse et qui n'est plus concentrée dans ce théâtre-là. C'est comme si on jouait une pièce de théâtre dans la rue, ça se fait.
Oui, ça
mais
se
c'est
fait.
Quand même mieux dans un théâtre où on est dans une espèce de temple de la parole. Et ben, le comptoir est un temple de la parole qui s'est dispersé. Alors le patron, il a plus ses clients.
Et oui, il est désespéré. Ouais. Et donc il est tout seul à son comptoir.
Donc c'est le serveur qui lui ramène les verres vides et les mots qu'il entend, et il se régale parce que c'est les mots du comptoir que le mec lui ramène comme des paniers de champignons.
Et le patron reçoit des cartes postales de clients, comme ça arrive souvent dans les bars, comme ça de quartier, une carte postale de La Réunion notamment, et il se dit c'est même pas la peine de la coller, autant la mettre sur un pare-brise.
Oui, exactement. Et oui, il y avait ça dans les cafés, il y en a un peu moins maintenant, mais autrement, tous ceux qui partaient en vacances, alors évidemment, c'était les crêpes bretonnes, c'était la recette de la lotte, c'était une photo d'un boudin entier dans une assiette et tout ça, nanana, que des cartes postales comme ça. Alors là aussi, c'est de l'art, un espèce d'art minimal de la carte postale contre les... C'est une exposition de petits plaisirs dans les bars.
C'est très français ça d'ailleurs.
Alors, oui.
Alors racontez-nous l'histoire du nouveau papa Ludovic. Lui, il a une petite fille, vous écrivez « Tout est inclus dans la fillette ». Le patron le surnomme Jésus-Christ, tellement il s'est assagi alors que c'était le premier à faire la fête et à draguer les filles. Et vous dites il a peur de ne pas avoir assez d'amour en lui.
Oui, et oui, j'ai découvert un monsieur de bar comme ça qui a eu une petite fille et qui a changé complètement sa vie. Il était tout le temps avec sa petite fille dans les bras, tout le temps avec la petite fille dans la poussette, et il allait quand même au café. Mais donc il était seul avec sa petite fille, et j'ai vu que tout le monde était jaloux de l'amour qu'il était capable de recevoir et de donner. Et eux, ils étaient là, alors ils se moquaient de lui, ils buvaient des coups, mais ce moment de naissance, de beauté, de fragilité, tout ça. Et lui, il a découvert le monde qu'il avait dans les bras, le passé, l'avenir, la totalité de ce que, d'une certaine manière, on cherche dans les cafés, un rêve insensé, un poème insensé, et il l'avait, qui pesait 1,2 kg, il avait ça dans les bras, et que c'était un trésor que tout le monde convoitait en se moquant de lui, évidemment, parce qu'il n'était pas question que tous ces mecs de bar montrent leur fragilité, mais il rêvait de pouvoir aimer, plus qu'être aimé, il voulait pouvoir aimer comme lui aimait.
Il découvre que l'amour, ça peut augmenter encore et encore, et que ça s'ajoute. C'est très joli. Il y a une histoire que vous lui racontez aussi. Je vous ai laissé en choisir une, Jean-Marie Goriot.
Oui, j'aime beaucoup, c'est un petit café dans la montagne. On leur a dit que le Tour de France allait passer sur la route. La route a été refaite par la mairie et tout, elle est magnifique. Donc c'est un jour de fête, ils ont décoré le bistrot, il y a la carte de France avec la petite punaise sur le village. Sauf que dans la nuit, il y a eu un orage et il y a eu un éboulement plus loin, près du pont de fer, ce qui fait que le Tour de France ne va pas passer là. Ça va passer dans le village au-dessus où il n'y a même pas de bistrot. Alors c'est la discussion du patron qui est devant sa porte avec un client qui le regarde et il fulmine. Contre les coureurs cyclistes, contre la vie, contre Dieu, contre tout. Parce que les coureurs cyclistes vont passer à Villars-le-Haut, où il n'y a pas de bistrot, alors qu'ils devaient passer à Villars-le-Bas, où c'était l'événement de la journée.
Voilà. Et tout ça, vous l'avez vécu. C'est incroyable. Tout ça,
oui,
vous l'avez vu.
Oui, c'est des petits moments. Donc, d'habitude, je notais que les petites phrases qui étaient dites. Et là, j'ai voulu faire le portrait des gens qui les disent.
Bon, merci beaucoup, Jean-Marie Goriot. Les papillons de comptoir, c'est paru en poche chez Point. Et c'est un poche inédit. C'est pas cher, c'est drôle et c'est touchant en prime. Bravo, Jean-Marie. Vous restez donc avec nous pour parler de Palace avec monsieur Jean-Michel Ribes qui est avec nous. Ça va, Jean-Michel?
Ça va, bah, très bien. Quand je vous vois aussi bronzé, je me dis.
J'ai pas pris de vacances.
Mais non, mais je sais, bah, en plus, alors, si vous êtes bronzé sans vacances, c'est magnifique, c'est un exemple, hein, bravo.
À tout à l'heure, je vous remercie Jean-Michel, à tout à l'heure. Et bonjour Marie-Pierre Lafontaine.
Bonjour.
Vous êtes installée dans nos studios de Montréal, vous publiez Chienne aux éditions Héliotrope. C'est un livre très violent qui raconte les sévices infligés par un père sur ses deux filles. C'est l'horreur absolue. On va tout de suite démarrer avec la BO de votre roman. On vous a demandé quelle musique pouvait illustrer votre récit et vous avez choisi Tous Celos, un groupe croate avec Hysteria. Pourquoi ce titre, Marie-Pierre?
Oui, en fait, c'est une musique que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a une belle intensité. Donc, je pense que l'intensité, ça marque le roman Chienne, le livre, en fait. Donc, oui.
C'est vrai qu'il y a une intensité incroyable. On va écouter un extrait et on parle de ce livre terrifiant ensemble.
Thank you.
Tous Celos, un groupe croate, donc avec Hysteria, qui illustre votre livre, Marie-Pierre Lafontaine, dans Chienne, paru chez Héliotrope. Un père martyrise ses deux filles. Elles doivent lui obéir, supporter ses sévices, le voir en train de se masturber et de se répandre. Elles sont à sa botte, à sa merci. Que cherche-t-il en les traitant comme ça, Marie-Pierre ?
La jouissance, c'est une jouissance qui passe par la haine du féminin. Donc, il cherche la jouissance et le contrôle absolu sur le corps et la mentalité de ses enfants.
Et ce livre n'est pas un témoignage, ce n'est pas une thérapie non plus. C'est un texte littéraire, vous l'expliquez ça. Pourtant, ce que vous racontez est d'une violence extrême et on sent bien que ce n'est pas arrivé comme ça. Souvent, la réalité dépasse la fiction.
Oui, c'est important pour moi qu'on comprenne que ce n'est pas une thérapie et que c'est un livre et que ce n'est pas un témoignage, parce qu'un témoignage m'aurait obligé à une espèce de vérité, toute la vérité dans une question peut-être juridique, alors que l'autofiction pour moi me donne une très grande liberté et c'est, je revendique cette liberté dans l'écriture.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette liberté?
Je pense qu'elle m'a apporté la manière de traiter du trauma avec une perspective vraiment très intime, subjective, et d'inventer une espèce de jeu qui soit beaucoup plus fort que je le suis, et de donner beaucoup plus de pouvoir en fait à ce jeu dans le livre que j'en ai dans la réalité en fait.
Cette histoire, vous l'avez racontée à l'université, en maîtrise de création littéraire à l'UQAM, à Montréal. Et quand vous avez présenté ce projet d'écriture devant toute votre classe, certains élèves ont pleuré. Et votre professeur vous a incité à le publier. C'est comme ça qu'il est arrivé, ce livre.
Oui, exactement. Donc, c'était mon projet de mémoire. Je voulais absolument travailler sur la violence contre les femmes. Je trouvais que c'était un bel endroit à l'université pour travailler sur le trauma. Donc, ça me permettait de l'intellectualiser, de le mettre un peu à distance, puis de réussir à en faire un texte de création, en fait. Puis, ma directrice, oui, Martine Delvaux, à l'UQAM, m'a recommandé de le publier parce qu'elle trouvait que le texte, elle aimait beaucoup le texte. Elle pensait que peut-être pourrait faire du bien à d'autres femmes qui pourraient le lire.
Bon, on ne peut pas tout raconter ici, Marie-Pierre Lafontaine. La seule chose que je puisse dire aux auditeurs, c'est d'imaginer le pire. Comme moi, avant de lire votre texte, en fait. Ils vont constater que c'est pire encore, que ça va au-delà de l'imaginable. Comment survit-on à de telles maltraitances quand on a 10-12 ans, Marie-Pierre Lafontaine ? Comment on fait ?
Je pense que dans le cas du livre, c'est passé par l'amour entre les deux sœurs. Donc, c'est comme ça, je pense, que les deux enfants ont pu survivre. Il y avait cet espace de sécurité dans le lien entre les deux sœurs qui permet de dépasser, en fait, la famille, de dépasser ce qui est appris à ces enfants-là. Tout ce qui est appris à ces enfants-là, c'est la violence et la haine. Puis cet amour-là, je pense que c'est quelque chose d'un lien extrêmement fort qui permet de survivre.
Ouais, et puis la mère participe à ces maltraitances. Vous expliquez, vous le montrez, qu'elle s'en fait même la complice. La seule chose qu'elle interdit à son mari, c'est le viol, mais le viol avec pénétration. Tous les autres viols sont possibles, mais pas de pénétration.
Exactement. Donc, c'est le seul interdit qui est posé au père dans le livre. Et puis, ce père-là va tenter de repousser les limites de cet interdit-là le plus loin qu'il le pourra. Donc, il va user de beaucoup d'imagination, en fait, pour réussir à agresser ses enfants sans les violer, en fait, sans les pénétrer. Ouais.
C'est un livre écrit par fragments, Marie-Pierre, avec sur la première page une première phrase choc, je dirais. Vous dites « Aujourd'hui, je ne cache plus mes désirs. Je voudrais que ce texte décime ma famille entière ».
Oui, c'est une phrase que j'aime vraiment beaucoup dans le livre. Ça parle de ce pouvoir que j'ai tenté de donner à la narratrice, donc à ce jeu, le pouvoir de l'imaginaire, en fait. Donc, elle pense que le simple fait d'écrire sur son enfance va tuer son père, va tuer sa famille au complet. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant qu'on puisse se prendre ces pouvoirs-là dans la littérature, des pouvoirs qu'on n'a pas dans la réalité.
Alors, ce père, en plus de jouir physiquement de la souffrance de ses enfants, organise des petits jeux dans sa tête. Il roule sur le pied de sa fille, coince les doigts de l'autre dans la portière et il observe leur réaction. Il dissuade même l'une d'elles d'avoir un chien en l'enfermant dans la cage d'un animal agressif. Il terrorise par plaisir jusqu'aux limites de la mort. Parce que ça s'en est fallu de peu, en fait, parfois, Marie-Pierre Lafontaine.
Oui, exactement. Donc, je pense que c'est toute la question du sang, en fait, représente une certaine limite dans l'imaginaire de ce père-là. Donc, il faut pas... si le sang coule, il y a le danger de mort. Puis, c'est la limite ultime, je pense, que c'est cette mort-là. Sauf qu'il joue beaucoup sur cette mort-là. C'est la peur de mourir qui maintient les enfants dans une soumission absolue. Oui. Donc, il joue bien ses cartes par rapport à cette mort-là qu'il leur promet, en fait.
Bon, on va aller voir du côté de nos libraires qui sont bouleversés par votre livre, Marie-Pierre Lafontaine. Les trois ont lu ce roman, la France, la Suisse et le Canada. Par qui voulez-vous commencer, tiens ?
Le Canada.
Le Canada, avec Josiane Letourneau dans nos studios de Montréal. C'est à vous, Josiane.
Marie-Pierre Lafontaine, je dois avouer que j'ai tenté de vous lire avec mon regard et ma tête de libraire seule, et que j'ai misérablement échoué. Autant de violences réelles, projetées, physiques et psychologiques et difficilement supportables, elles dépassent tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Dans ce rapport de force particulier entre littérature, vérité et création, votre livre continue d'occuper mon esprit.
Bien, Sophie Merci. Todescato en France, quel est votre avis?
Alors évidemment, c'est pas un livre qui est écrit pour plaire, pour être aimé, c'est un livre qui est écrit pour donner un coup. Et il le fait avec des moyens qui sont pas ceux du sensationnalisme, mais vraiment ceux de la littérature, c'est-à-dire la recherche d'une voix et la recherche d'une écriture. Donc bien sûr, c'est une épreuve de venir à bout de ce livre, ça fait violence, mais c'est aussi une expérience qui a tout à voir avec celle de la littérature, qui est de prendre un risque, pas d'être dans le confort.
C'est ce que vous vouliez, hein, Marie-Pierre Lafontaine, que ce soit une épreuve pour le lecteur. Et depuis le début de l'entretien, que je vous écoute, j'ai l'impression que vous prenez une certaine distance avec les faits, parce que sinon, peut-être que vous ne pourriez pas raconter tout ça, là, en ce moment, à l'antenne. Je me trompe ou...
Oui, exactement. Ouais. Oui, c'est extrêmement émotif, tout ça. C'est un projet qui est duquel je suis vraiment très près. Donc oui, c'est vraiment très émotif, cette distance-là. Je la trouve très nécessaire pour en parler. Ouais.
Claire Renaud est en Suisse et Claire a adoré ce livre, je crois aussi. Claire.
C'est-à-dire, je sais pas si on peut adorer, mais en tout cas, c'était pour, comme pour mes autres amis libraires, c'était à la limite du supportable, tellement c'est violent. L'écriture, la lecture, elle est comme un coup de poing qu'on reçoit en pleine figure, mais alors c'est un coup de poing avec un grand box et vraiment à 2 centimètres, je dirais, du visage. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est grâce à cette intensité et à cette dureté qui en ressort.
Marie-Pierre Lafontaine, vous écrivez un moment dans votre livre, « Il y a tout un pan de la violence que je ne me résous pas à écrire, ça en ferait trop. Trop de violence dans le même livre, on se dira que j'ai exagéré ou menti. » Il y a pire. Qu'est-ce qui peut être pire que ce qu'on a lu, Marie-Pierre?
En fait, le prochain projet, je vais traiter d'exploitation, en fait, du corps des enfants. Donc, c'est ce pan de la violence-là que je souhaitais pas mettre dans le livre. J'avais l'impression que ça en faisait trop, justement. Je pense que par la littérature, on peut rendre l'horreur imaginable. J'ai l'impression que les êtres humains qui ont vécu une vie très tranquille et sage ne sont pas capables de se concevoir ce que c'est que l'horreur et jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est pour ça que j'ai un pan de la violence que j'ai pas mis. Ça sera fort possiblement dans le prochain roman.
L'exploitation du corps des enfants?
Oui. Le travail forcé, si on veut, oui.
Karine Tulle est effondrée, hein, juste à côté.
Non, je suis bouleversée, c'est intéressant elle est bouleversée, aussi, Karine. Parce que ça dit quelque chose aussi du pouvoir de la littérature, ce que peut la littérature. Oui. On voit bien qu'il faut faire quelque chose de cette violence, de cette souffrance. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces personnes ont été condamnées par la justice pour les
actes. Oui, Marie-Pierre Lafontaine, que sont-ils devenus, ces parents-là?
Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler de mes parents, mais je peux dire que la justice, c'est un très long processus, c'est un processus qui est extrêmement éprouvant et difficile. Donc,
qui est important.
Ouais,
c'est pour ça que je me permets de vous poser
cette question.
J'ai
pas vraiment envie de parler de ça, si ça vous dérange pas.
Bien. On vous laisse ça pour vous, évidemment. Vous confiez vers la fin de ce récit avoir peur de devenir pédophile. Et vous dites, si ça arrive, je promets de me suicider.
Oui, c'est une peur quand même qui me semble légitime compte tenu du contexte dans lequel la narratrice est élevée.
Le pire, c'est reproduire, c'est ça?
Je pense que ça serait le... Oui, puis ça serait le crime absolu pour elle de devenir comme son père, de devenir ce père-là. C'est ça l'horreur pour elle.
Votre seul souhait, c'est qu'on vous croit. Vous jouez d'ailleurs avec les répétitions dans ce texte, Marie-Pierre Lafontaine, comme une métaphore littéraire, finalement, des souffrances infligées et qui, justement, se répètent.
Oui, parce que dans le fond, la violence, dans l'enfance, elle se répète à l'âge adulte aussi. Et donc, c'est la peur de mourir, ça s'inscrit dans le corps. La terreur, ça s'inscrit dans le corps et ça revient à l'âge adulte. Puis, les sévices du père contre ses enfants, évidemment, qui sont quotidiens. Donc, cette répétition-là de la violence, pour moi, c'est le principe de la violence contre les femmes et contre les enfants fonctionne. C'est la répétition, le principe fondateur. Donc, c'est pour ça aussi que cette répétition-là est extrêmement importante pour moi d'être dans le livre. Et c'est ce qui explique aussi la forme du fragment. On y revient toujours à la violence dans le livre.
Bon, merci beaucoup Marie-Pierre Lafontaine. Merci infiniment. Chienne est paru aux éditions Héliotrope. Vous avez beaucoup de courage, Marie-Pierre, vraiment.
Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
Je vous en prie. On vous souhaite d'être heureuse maintenant, ou du moins le plus apaisée possible. Merci beaucoup, Marie-Pierre Lafontaine. Dans un instant, Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gouriot pour le retour de Palace sur scène. Et dans un livre qui vient de paraître chez Actes Sud Papier, on va essayer de se détendre, hein, Jean-Michel, parce qu'il y a plein de choses drôles dans cette pièce, comme d'habitude. Avant cela, voici le regretté Rachid Taha et un nouvel extrait d'un nouvel album qui sort. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Rachita avec Aïta. في البلدان العامرين في الروف معبورين عايشين عايشين زوالين ميزيريا ضايعين La voix de Rachita qui nous manque tant. C'était Aïta, extrait de son album posthume qui vient de sortir.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et Jean-Michel Ribes avec Jean-Marie Gouriot sont dans la librairie pour Palace sur scène, publié par les éditions Actes Sud Papier. La première au théâtre, c'était mercredi à Paris. Pour les plus jeunes qui nous écoutent ou pour ceux qui sont passés à côté, rappelez-nous ce qu'est Palace, Jean-Michel.
Une issue de secours. une issue de secours par rapport à, disons, la convention, le ronron, ce qui existe comme ça, le formatage, l'esprit de sérieux, tout ça, c'est un désenfermement, c'est une manière de joyeuse de s'évader de la parole des gens qui savent tout.
On retrouve donc les personnages essentiels de la version culte, le directeur, la râleuse, l'homme aux clés d'or. Et vous avez mis les sujets à jour. L'alimentation et les migrants, par exemple, occupent une grande place, comme cette scène où des terroristes font irruption dans le palace pour exiger que des migrants soient logés dans la suite présidentielle d'un grand hôtel à Nice.
Ce que vous racontez, c'est un peu moral, et nous, on n'est pas moral. En vérité, il détourne...
Attendez, on y arrive.
Oui, oui, ils détournent le palace en guinguette de la Marne, ce qui évidemment terrorise tout le monde, et ils arrêtent qu'à partir du moment, en effet, où une suite présidentielle est donnée à Nice à des migrants. Mais c'est quand même toujours en étant avec un rire de résistance, on va pas donner des leçons.
Ils séquestrent en tout cas les clients du palace, les obligent à jouer à la belote et à manger des moules frites. Oui. Alors il est impossible d'appeler la police. Jean-Marie Gouriot, on parlait des flics tout à l'heure, parce que, je cite, « les flics sont tous des fils de prolos. Les frites, les moules, le petit blanc, c'est sacré, c'est toute leur enfance, ils ne bougeront pas. »
Oui, ce qui est vrai d'ailleurs, il y avait une brève qui disait que en 68, les seuls fils d'ouvriers, c'était les CRS. Et oui, absolument. Et en même temps, ils veulent pas appeler la police parce qu'il y en a un, par exemple, qui dit qu'il a fait un peu de la garde à vue pour des problèmes fiscaux. Enfin, on connaît tout ça. Donc, tous les clients du palace, ils préfèrent pas avoir la police qui rôde parce qu'autrement, ils partent en prison, comme Cahuzac, par exemple.
Ils sont tous corrompus. L'alimentation avec la râleuse qui trouve dans sa soupe de poisson une tongue et un bouchon d'huile solaire.
Ce qui prouve que c'est parfait parce que c'est du poisson sauvage. Le poisson sauvage n'existe que dans la haute mer. C'est là où il y a toutes les saloperies. Donc, quand on a une tongue dans sa soupe de poisson, ça veut dire que le poisson est sauvage. Il est pêché en haute mer. Voilà. Ça, c'est une sécurité absolue.
Il faut qu'il y ait un peu de plastique dans le poisson, quoi.
Oui. Voilà.
Il y a aussi Sylvana Vanna qui dit « On s'en fiche que les poulets soient élevés au grand air. De toute façon, on ne mange pas les poumons. »
Oui. Oui, absolument. Voilà, vous savez, cette espèce de spectacle qu'on a fait, c'est un cadavre exquis, ou plutôt un vivant délicieux, on va dire plutôt un cadavre exquis, où ça passe du haut en bas, du bas en haut, etc. Mais surtout, c'est quelque chose, je crois, de joyeux. On amène tout ça dans une espèce de danse folle, où les danseurs relient la danse folle des mots et des situations. Voilà, c'est un spectacle qui est à peu près aussi loin de tous les autres spectacles que votre émission des autres émissions.
Alors, je réfléchis à comment le prendre.
C'est un compliment merveilleux.
J'ai l'impression, c'était ma première impression, ça. C'était un compliment.
Vous savez, on dit toujours la première impression est la bonne, surtout quand elle est mauvaise.
Jean-Marie Gouriot.
Il y a une phrase que j'aime bien d'une cliente, c'est qu'elle dit « Vous saviez que Jésus n'a jamais connu la neige ?»
Oui, c'est vrai. Bon, nous avons demandé à Karine Thuil de lire un menu qui figure dans cette pièce palace. Les clients viennent de prendre place dans le restaurant. Le maître d'hôtel de belle stature annonce les plats du jour d'une voix forte. Pas trop forte, hein, Karine, la voix, mais soutenue quand même. On envoie la musique de palace et je vous fais signe, Karine. Ça vous va?
D'accord.
Allons-y.
On y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Je requiers votre attention un instant pour vous proposer les suggestions du jour préparées par notre chef étoilé, Hubert Danzel. En entrée, les œufs réconciliés. Ce sont des œufs brouillés auxquels le chef parle très gentiment pendant 45 minutes pour leur expliquer que la vie est trop courte pour se disputer. Attention, nous conseillons de les déguster dès qu'ils sont servis, parce que pour un rien, ils peuvent se brouiller à nouveau. En plat, le chef propose la selle d'agneau Tour de France servie dans un maillot jaune avec une compote d'oignons accompagnée d'un contrôle positif d'urine en gelée. Le homard à la nage avec sa bouée. La bouée vous est offerte, bien sûr.
Jean-Michel Ribes.
Oui.
Petite réaction.
Oui. À ce menu?
Oui.
Bah, c'est un menu qui donne envie tout de suite.
Ah bah oui. Surtout l'urine en gelée, hein,
oui,
je peux dire.
Oui, il y a à la fin d'ailleurs un très beau dessert qui est le reste de la pâtissière qui s'est écrasée avec sa voiture contre un camion de Grand Marnier. C'est flambé. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est des. Vous savez, pour parler d'actualité, ce palace n'est pas un palace vintage et restauré à l'ancienne. C'est un palace fait avec. Voilà, c'est une cathédrale toujours aussi révérencieuse, mais restaurée avec des matériaux d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des petites choses comme ça.
Allez, allons voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de cette nouvelle version de palace. Déborah Damblon, en Belgique, ça fait un peu humour belge parfois, palace, non?
On adore les Belges.
Eh bien, exactement, on peut dire ça, Emmanuel. Alors, on va aussi dire que c'est parce que je suis très très jeune, que je ne connaissais pas la série. Mais donc, moi, j'ai ouvert cette pièce, mais sans attente. Et puis, mais quel plaisir de plonger dans ce bain d'absurdité rafraîchissante. Et effectivement, ça pourrait être belge. Je me suis amusée. J'ai pas tout compris, mais j'ai ri, j'ai des images plein la tête et l'envie furieuse, mais furieuse de m'amuser. Et sortir de cette lecture, ben, c'est vraiment comme d'un tour de manège. Ça fait un bien fou.
Sophie Todescato pour la France.
Oui, c'est très très agréable de lire du théâtre quand c'est aussi efficacement écrit au millimètre, d'autant plus que effectivement cette nouvelle version garde le meilleur de l'ancienne, avec des nouvelles choses. On retrouve les personnages, le rythme, le goût de l'absurde, tous ces effets de rebond, de ping-pong, de comique, de répétition qui fusent toujours aussi bien.
Jean-Michel Ribes, Jean-Marie Goriot, Palas, est-ce que c'est une critique du luxe et de ses absurdités? Parce que c'est vrai qu'on va loin dans le domaine du service première classe. C'est ridicule parfois, et même indécent dans certains hôtels, dans certains bateaux et avions aussi, ça frôle le grand excès.
Oui, disons que ça, ce serait la chose facile d'aller directement là-dessus. C'est avant tout la volonté des éclats de rire qu'on a partagés dans nos réunions, et qui évidemment... traduisait quelque chose d'époque. Vous savez, à la fin des années 80, c'était le règne de l'argent, des riches et des pauvres. Mmh. Comme vous avez remarqué, ça n'a pas tellement bougé. Donc, on est encore là-dedans. Mais on ne veut pas donner de leçons de morale. J'insiste là-dessus. C'est quelque chose plutôt proche de Zara ou du dadaïsme qui fait que, de toute façon, il y a quand même la société qui est dans ce qu'ils disent, ce qui est absurde. Mais voilà, ce n'est pas un de la leçon. C'est encore une fois une issue de secours aussi face à la moralité et aux gens qui ont la bonne parole.
L'issue de secours avec un académicien, Jean-Marie Goriot. Vous vous souvenez de cet académicien qui n'est pas content de ce qu'il écrit?
Oui, parce que... Donc il est très prétentieux comme tous les académiciens. Donc il écrit des histoires d'animaux pour les enfants.
Ouais.
Et avec un sérieux inimaginable qui rend la chose extrêmement comique.
On a retrouvé l'extrait, figurez-vous. L'extrait de l'époque avec Grenouillet et Grenouillette, c'est ça?
Grenouillet et Grenouillette. Oui, c'est Jean-Yann, si j'ai bonne mémoire.
Allons-y.
Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé qu'on ne me dérange pas.
Il s'agit de votre désaltérant, monsieur. Où dois-je poser la bouteille de monsieur?
Et posez-le où vous voulez, ça m'est égal.
Sur la table de travail de monsieur?
Oui, c'est ça, c'est parfait sur la table.
Puis-je écarter légèrement les feuillets manuscrits du nouveau livre de monsieur?
Oui, écarter, de toute façon, c'est de la merde. Alors ça, c'est de la pisse de chat, du vomi de rat, de la courge bouillie, mais c'est pas un livre.
Monsieur n'a pas le droit de dire ça. Quand on a écrit « Grenouillette et Grenouillot visitent la mare du père Michaud », ça m'étonnerait beaucoup qu'on fasse ensuite de la pisse de chat.
Vous avez lu « Grenouillette »?
3 fois, monsieur. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est bien simple. Avec la chartreuse de Parme, Madame Bovary, et le bal du comte d'Orgel, je place Grenouillette et Grenouillot à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque.
Ça fait du bien quand même de réentendre de Jean-Yann dans
oui,
ses grandes
vrai.
Œuvres. C'est
oui,
sympa.
C'est
hein. C'est-à-dire que cet absurde et ce comique rend Jean-Yann archi-vivant. Et ça,
oui,
c'est sympa.
Vrai, c'est vrai.
Parce que c'est fait pour ça.
Bon, c'est ce qu'on dira de vous, Karine Thuil, un jour peut-être. Dans l'avenir.
Ah oui, si c'est vous lisez des menus comme ça, vous êtes
oui,
vous passez à une postérité éternelle.
Bon, on a commencé avec ça. Ouais. Ouais.
C'était très très drôle. J'adore Jean-Yann en plus. C'est un plaisir d'écouter.
On notera que vous avez gardé une scène écrite avec Georges Wolinski.
Oui.
Dans la pièce.
Oui, c'est une scène autour de la panique du sida. La panique de est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que t'as... Ah non, c'est passé là ou...
Non.
Alors la scène. Ah oui.
Le trio amoureux, le trio.
Ah oui, le trio amoureux, oui, oui. Ces deux garçons qui tranquillement mettent, dressent les tables, et tout d'un coup, l'un dit à l'autre, tu sais que je t'aime beaucoup, mais bien sûr que moi aussi je t'aime beaucoup. Oui, mais toi tu m'aimes comme un ami. Oui, ben, un très bon ami. Oui, mais moi je t'aime physiquement. Ouais. Mais qu'est-ce que tu prends? T'es fou? Oui, je suis fou de toi, etc.
Oui, ça part comme ça. Ouais. Et il dit à Solange, qui est l'épouse de Robert, je crois, si je me souviens bien. Il dit, mais tu as vu ce qu'il est en train de dire, là? Et Solange dit, bah oui, c'est bon, tu peux quand même coucher avec mon mari, tu couches bien avec moi.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Bon, une petite réflexion sur la fin, pour terminer. La fin dans le monde, digne de Charlie Hebdo, d'ailleurs. N'oublions pas que si l'Afrique est un pays qui reste jeune, c'est parce que l'Africain meurt jeune.
Oui.
Et la Barmède rajoute, la fin dans le monde, laissez-moi rire, on les nourrit le lundi, le mardi, ils ont encore faim.
C'est oui, alors ça,
complètement
c'est...
amoral, Jean-Michel.
Oui, c'est amoral, mais ça, c'était une chose très amoral. Vous savez, ça, c'est une chose qu'avec Jean-Marie, on a rajouté, qui n'était pas dans la série.
Oui.
C'est qu'on n'avait jamais parlé des spas. Et c'est tous des gens dans la fumée d'un spa très angolais qui finalement soignent leur cellulite dans une eau salée qui est la même où les gens, où les pauvres immigrants se noient. Et c'est une réflexion de tous ces gens qui sont dans le confort d'un palace et des huiles essentielles qui d'un coup parlent des migrants. J'ai été court.
Oui, c'est affreux en tout cas. Je ne vous félicite pas.
Mais j'espère que vous ne me félicitez pas. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est être félicité. On veut être aimé, on veut être préféré.
Bon, très bien. Bon, vous faites partie des préférés de l'émission, ça vous va ?
Merci, ah oui, très bien. Bon. D'ailleurs, je reviens la semaine prochaine.
D'accord. Merci beaucoup Jean-Michel Rive. Merci Jean-Marie Gouriot. Merci. Palace sur scène est publié chez Actes Sud de papier et ça va réjouir tous les fans.
Et c'est tout.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et c'est tout.
Et c'est au Théâtre de Paris.
Oui, exactement, pour les Français.
Tous les soirs, ouais, pour les Français, mais même les Canadiens. Il y a des vols anciens. Oui, non, mais je vous le dis, parce qu'il y a des charters qui y arrivent, donc tu es obligé
vous
de le signaler.
Vous savez qu'on a une émission à tenir, quand même.
Oui, oui. Justement. Autant finir par quelque chose de joyeux.
Non, on n'a pas terminé, il y a Karine Thuil qui arrive. Il y a les coups de cœur et les coups de gueule des libraires d'abord. Et on commence avec un coup de cœur. Tiens, ça va adoucir tout le monde. Au Canada, dans le rayon poésie, Josiane Letourneau.
Un recueil de Mathieu Blais, Soudan, Enagine et Fatou, aux éditions d'Hexagone. Alors, dès les premiers mots, on a la sensation d'une poésie qui fait résonner les mythes fondateurs, avec quelque chose dans la langue comme Gaston Miron et Hubert Aquin qui auraient eu un enfant psychédélique. J'ai eu l'impression d'entrer dans une poésie organique liée à la terre, à l'essence de la vie, dans un espace poétique où le corps et la nature se confondent, mais aussi où la poésie poussière se répand jusqu'à la fin du monde, avec des vers hachés, vifs, audacieux et un peu fous. Et quand on sait à quoi le titre fait référence, c'est la cerise sur la coupe glacée.
Bien, la poésie de Mathieu Blais aux éditions de l'Hexagone. Plein d'images. Merci beaucoup Josiane. Un coup de gueule en France, Sophie Todescato.
Une déception, parce que il s'agit du livre de Lionel Duroy. Nous étions nés pour être heureux chez Julliard. Alors d'habitude, les livres de Duroy, c'est un peu comme de la musique de chambre, avec à la fois de l'écho, de la justesse. Mais là, au contraire, on a plutôt une impression de cacophonie, de maladresse. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Les dialogues s'engluent un peu dans l'anecdote et on reste à la surface des choses. On n'entend donc pas cette voix du roi qui sonne habituellement si forte et si nécessaire.
Nous étions nés pour être heureux aux éditions Julliard. À ne pas lire selon vous donc. D'accord. Claire Renaud est en Suisse, un petit coup de cœur.
Oui, de Raoul Pastor, En été avec Geronimo aux éditions Slatkin. En fait, c'est un livre tendre, sensible et écrit de manière très fluide. Il nous offre une balade en fait dans le temps, son enfance, dans la maison en Catalogne de son grand-père Geronimo. En été, une année, peu importe. On tourne les pages de cet ouvrage et, comme une rêverie le temps de la sieste, il en émane des odeurs de fleurs d'oranger et d'olivier. En fait, c'est comme en bel instantané, plein d'âme, et comme c'est en livre, hélas, on n'a pas envie de le refermer.
Un été avec Geronimo de Raoul Pastor chez Slatkin. Merci Claire. On termine par un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui Emmanuel, parce qu'on est en période de marronnier, n'est-ce pas ?
Bah non.
Oui,
si.
Les marronniers, les trucs qui reviennent chaque année à la même époque.
Oui, mais bah si. Ça, on n'est pas à Noël encore, ça arrive bientôt.
Ah non, mais la rentrée des classes, Emmanuel.
Oui.
Comme chaque année, bah bon, nous, on est inondés de bêtes albums jeunesse préformatés qui parlent de la rentrée ou du cartable, du stupide personnage. Vous savez, des séries vraiment sans consistance. Bah moi, j'ai juste envie de dire, si déjà vraiment vous voulez raconter un livre sur l'école à un pauvre enfant qui doit y retourner, bah faites-vous conseiller et demandez des bons albums. Il y en a plein et ça aidera tout le monde à passer un meilleur moment.
Bon, merci beaucoup Déborah. Avant de parler du nouveau roman de Karine Thuil en lice pour le prix Goncourt et qui va peut-être agiter nos libraires, je ne sais pas, Karine, ne me regardez pas comme ça. Nous verrons cela après Cyril Mokayesh et une chanson très originale sur Beyrouth que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Cyril Mokayesh.
Silhouette élancée comme le jeune phare sur la jetée, tourne et tombe à ses pieds, alambiqué son déhanché, mariage de sable et de sang chaud, hispanique de miel et d'épices et sa peau magnétique. Beyrouth, Beyrouth, me perds dans tes pensées. Beyrouth, Beyrouth, un cèdre, le monde entier. Vivre au cœur d'un chantier, au gré des compteurs électriques, à chaque rue, son café, son identité politique, conflit d'intérêts jusqu'en outre-Atlantique, les mains sales sont un détail d'ordre pratique. Beyrouth, Beyrouth, me perdre dans tes pensées. Beyrouth, Beyrouth, un cèdre, le monde entier. Beyrouth, Beyrouth, tout perdre, recommencer. Beyrouth, Beyrouth, un cèdre, le monde entier. Où est donc ton sentiche? Comme les pêcheurs sur la corniche, marche ou crève à ses pieds, militaire et son déhanché, mariage de roudé de passion romantique. Ici le rêve et le poison communique. Beyrouth, Beyrouth, me perdre dans tes baisers. Beyrouth, Beyrouth, un cèdre, ma salamé. Beyrouth, Beyrouth, tout perdre, recommencer. Beyrouth, Beyrouth, un cèdre, le monde entier.
C'était Cyril Mokayesh avec Beyrouth.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Karine Thuil est dans la librairie pour son livre Les choses humaines, paru aux éditions Gallimard. Quelle est la différence entre un viol et une relation sexuelle non consentie, selon vous, Karine?
Un viol, c'est une relation sexuelle non consentie. Donc il n'y a pas de différence.
Il y a un petit doute dans votre livre.
Alors, il n'y a pas un doute. Ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est la rencontre d'abord entre un jeune garçon et une jeune femme. Elle l'accuse de viol. Lui est un fils d'un couple de pouvoir. Elle vient d'un milieu beaucoup plus simple. Ouais. Elle l'accuse de viol et lui dit qu'elle était consentante. Et c'est vrai que pour raconter cette histoire, pour écrire ce livre, j'ai assisté à de très nombreux procès aux assises de Paris. Et finalement, la différence, c'est ce qu'on appelle le déni et la sidération. C'est-à-dire que vous avez une victime qui a très peur, qui est sidérée, donc qui n'a pas la force de repousser son agresseur, et un homme qui est dans le déni de ce qu'il a fait.
Alors, on est dans un monde privilégié dans ce livre, Karine Thuil, avec le monde des médias, des journalistes connus, un soupçon de politique, la petite bourgeoisie aussi, et ce jeune homme de 21 ans, Alexandre, fils de Jean Farel, célèbre intervieweur politique. C'est lui qui un jour, et très tard d'ailleurs dans le roman, page 132, va commettre un acte ambigu avec la fille du compagnon de sa mère. Et la situation n'est pas claire, comme la plupart de ces situations qui dérapent entre jeunes au cours d'une soirée, arrosée et chargée de substances, c'est jamais clair.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour moi, en l'écrivant, la situation est claire. Mais dans les procès, on voit ces situations, ce qu'on appelle la zone grise du consentement, qui en fait, selon moi, n'existe pas. Parce que c'est vrai que c'est parole contre parole, c'est chacun a sa version des faits. Mais encore une fois, moi je suis convaincue qu'il y a chez celui qui commet l'acte un déni total de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire, de l'acte qui est en train de se commettre, pour lui n'est jamais un viol. Et pour elle, par la prostration, par la sidération, parce qu'elle est statufiée par la peur, elle n'a pas les moyens de s'opposer à lui.
Oui, sauf et que puis, là, c'est pas si évident, Karine, dans ce que vous écrivez. Parce qu'ils se retrouvent dans un local, comme ça, tous les deux, la fille le suit, ils prennent un petit peu de drogue, ils fument, bon, voilà, rien de très, très violent jusque-là, et puis après, bon, ça dérape un peu. Et vous n'êtes pas claire, Karine Thuil, parce qu'on a tendance, en lisant votre roman, à excuser Alexandre, à lui trouver des circonstances atténuantes, or, ce qu'il fait, s'il l'a fait, parce qu'on ne sait pas jusqu'au bout quasiment, S'il l'a fait, c'est un viol abject.
Alors en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est la réalité d'un procès d'assises aujourd'hui et entraîner mon lecteur comme s'il était un juré.
Donc vous avez été influencé.
Et quand on est dans un procès d'assises, c'est le procès de l'accusé, ce n'est pas le procès de la victime. Ça, c'est très important de le savoir. Donc en fait, les jurés doivent savoir si oui ou non ils vont enfermer la personne, mettre en prison la personne qui est accusée. Donc c'est son procès, c'est sa vie principalement qu'on va disséquer et effectivement au procès, c'est parole contre parole, c'est chacun qui va défendre sa vision des choses, c'est l'avocat de la défense qui va prendre parti pour l'accusé, c'est l'avocat des parties civiles qui va rappeler
ça,
le courage.
Oui, mais donc c'est la réalité. Vous auriez pu être beaucoup plus concrète dans l'acte.
Ah bien sûr, j'aurais pu choisir le cas d'un, et j'en ai vu au procès d'assises, c'est-à-dire le cas d'un viol avec un couteau, d'un viol dans un parking. Moi, j'ai choisi d'aborder
l'ambiguïté,
ce qu'on appelle la zone grise du consentement. Mais qui pour moi fait partie de la culture du viol. Et c'est justement parce que c'est complexe et parce que c'est ambigu que c'est intéressant à raconter dans
Jean-Michel
un roman.
Riba.
Oui, il y a une question que je me pose quand vous dites qu'il y a un déni. Je comprends. Est-ce que, comme ça, l'espèce d'emballement, d'exaspération, du désir tout d'un coup de celui qui va commettre un acte répréhensible, ne l'aveugle pas et ne justifie pas son acte? Le désir n'est pas quelque chose finalement qui peut
c'est quelqu'un qui à un moment donné va passer en force. Alors c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle, et j'en parle d'ailleurs dans le roman, le viol opportuniste. C'est-à-dire que cet homme va se trouver, ce jeune homme, dans cette situation, ils sont dans un local, ils ont bu, ils ont fumé, ils flirtent un peu, et puis il se dit, ben finalement, je passe en force. Donc, il l'oblige à lui faire une fellation. Et puis, après, ça, il va la violer. Et pour lui, ce qui est en train de se commettre n'est pas vraiment un viol parce qu'elle l'a suivi.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement du désir qui le rend aveugle, qui ne le rend pas manipulateur, qui ne le rend pas...
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est ce que c'est la défense, finalement, des accusés au cours des procès qui disent, j'avais du désir, elle était là, j'avais l'impression qu'elle était consentante. Tout ça, ça fait partie,
c'est
d'ailleurs,
ce que dit Alexandre.
De ce qu'on a appelé la culture du viol.
Mais une fois de plus, Karine, la situation d'Alexandre et de cette jeune fille, elle n'est pas si claire.
Mais c'est ce qui est intéressant aussi, je crois, en littérature.
C'est pas dit qu'il l'ait violée. C'est pas dit qu'elle n'ait pas été consentante.
Alors je ne vais pas dévoiler le verdict ici parce que je veux laisser à vos auditeurs le plaisir de découvrir. Oui. Mais pour moi c'est clair. Mais je ne veux pas dévoiler.
Voilà, c'est ça.
C'est
vous laissez l'interprétation au lecteur. Et là il y a un petit côté pervers, Karine Tuil.
Mais le lecteur est juré.
Qu'on se surprend, on culpabilise à un moment. Moi j'ai culpabilisé de me dire Alexandre finalement peut-être que pas tant que ça.
Non, je suis très claire. Il faut voir de quel point de vue je me place. C'est-à-dire que j'ai choisi dans ce livre de me placer du point de vue de la famille de l'accusé. Et de l'accusé. Et il faut imaginer, pour cette famille, ce que ça signifie. La mère est une féministe engagée, une essayiste reconnue, mais quand c'est son fils qui est visé par une plainte, tout change, c'est évident. Elle a envie de croire son fils, elle ne veut pas imaginer que son fils, qui est un brillant étudiant, qui a toujours tout réussi dans la vie, ait commis cet acte-là. D'ailleurs, pour ce livre, je me suis inspirée d'un fait divers, qui était l'affaire de Stanford, et c'était un jeune étudiant de Stanford qui était accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune fille sur le campus, et chose terrible, le père du jeune homme avait dit au procès, comment on peut détruire la vie de mon fils, qui a tout réussi, pour 20 minutes d'action. Donc au contraire, mon livre raconte et dénonce à sa façon, mais en montrant toute la complexité de cette affaire.
Et ça, vous le démontrez très bien. On va voir du côté des libraires ce qu'ils ont pensé de votre roman, Karine Tuil, avec le Canada, la Belgique et la Suisse, et on commence avec Josiane Letourneau au Canada.
Oh là là, la facilité déconcertante avec laquelle on entre dans ce roman et la manière directe et lucide avec laquelle vous dépeignez les parcours et la nature de vos personnages, il y a une force et un aplomb rare dans votre écriture, Karine Tuil. Tout au long de ma lecture, j'ai en vain attendu un moment de faiblesse qui n'est jamais venu. C'est un roman si intelligemment construit, brillant, qui a complètement détruit mes dernières illusions sur l'amour et le romantisme en littérature, mais c'est si habilement fait que je peux pas vous en vouloir.
Merci infiniment. Moi, ma vision aussi est complètement...
Alors, c'est vrai. Franchement, Karine, vous laissez peu d'espoir à la place de l'amour dans les relations humaines. Notamment dans le monde médiatique et politique, on ne peut avoir confiance en personne. Vous écrivez même, les relations humaines semblaient vouées à la trahison et à l'échec.
Oui, c'est une vision très pessimiste des rapports amoureux et de la nature humaine. Mais c'est la mienne. Enfin, c'est celle qui transparaît dans mes romans. Est-ce qu'on doit se justifier et commenter?
Et si on essayait, Karine, de faire confiance? si on arrêtait comme ça de peindre une société comme ça, dans les livres, dans les médias, partout on dénigre, partout on doute, si on essayait autre chose.
Mais ils essayent mes personnages, il faut aussi raconter le contexte. Mais vous en tant qu'auteur. C'est-à-dire que mon personnage Claire, la mère de l'accusé, quand le livre s'ouvre, elle quitte tout pour vivre une très grande passion
vous
amoureuse
en tant
et sexuelle.
Vous en tant qu'auteur, avec vous contribuez à ça. À ce côté négatif de
alors
la société
là,
où on doute de tout, il n'y a pas d'amour, on trahit.
Vous attribuez à l'écrivain beaucoup trop de pouvoir. Et,
ah,
je, considère, et je considère qu'un livre n'a pas à être moral ou amoral.
Ouais.
Un livre existe, il est porté par un souffle, par un univers, il n'y a pas de message. Et je crois que même les intentions de l'écrivain ne doivent pas apparaître dans son roman.
D'accord, c'est votre droit. La Belgique, ça vous va ?
Très bien, j'adore la Belgique.
Déborah Damblon, c'est à vous.
Eh bien, votre roman, Madame Tuile, c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est un vrai sujet, une vraie histoire qu'on a envie de découvrir et puis qui va nous balancer d'une émotion à une autre. Ce sont des personnages crédibles. Bref, c'est un très bon moment de lecture passionnante au premier degré. Et puis, il y a les degrés suivants. Quand au coin d'une page, quand au détour d'une phrase, on se prend certaines émotions en travers de la figure et qu'on comprend que les comportements de ces personnages qu'on trouvait d'abord tellement éloignés, le sont peut-être pas tant que ça. Et c'est terrible.
Claire Renaud, en Suisse, êtes-vous d'accord avec votre collègue ?
Vous avez commencé par me surprendre et ça déjà c'est super. Après, on est embarqué dès les premières pages dans les tréfonds de l'ambiguïté humaine et vous le faites de manière quasi chirurgicale et ça fonctionne. Vos personnages, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça n'est pas la question. En fait, on les comprend. Et c'est ça qu'il y a de très perturbant. Et en fait, je vous dis chapeau, votre livre est un véritable tour de force.
Merci infiniment.
Vous avez séduit tous nos libraires,
Karine
Suile.
Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est toujours un moment... La publication, c'est toujours un moment très difficile, parce que surtout sur un sujet comme celui-là, l'écriture elle-même a été éprouvante. Et j'avais... Enfin, pour moi, c'est aussi le rôle de la littérature. On en parlait au début de l'émission avec ce livre Chienne. C'est aussi le lieu, finalement, où il va pouvoir y avoir des échanges, du débat, de la contradiction. Et savoir que... Voilà, engendrer l'adhésion de vous.
Alors,
vos livres, j'en suis ravie.
C'était éprouvant, j'en doute pas, Karine Duhil, parce que vous abordez de nombreux sujets. Tout ce qui nous a marqué ces dernières années sont là. Le terrorisme, l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, la condition des Juifs en France depuis l'attentat de l'école à Toulouse, les médias impitoyables, les travers de la politique, tout est là. C'est quoi la morale de tout cela ? Votre conclusion, Karine Duhil ?
D'abord, mes personnages vivent dans leur époque, ils sont profondément ancrés dans leur époque, et c'est une époque assez brutale, la société est fracturée, et je crois qu'à la fois on perçoit, j'espère dans le roman, les fractures de la société, et comment ces fractures ont des conséquences sur la vie intime des êtres qui eux-mêmes sont confrontés à leur propre
figure. Et votre conclusion alors ? Sur ce monde-là.
C'est un monde assez désenchanté. Je parle aussi dans le livre des réseaux sociaux,
oui,
la façon
oui.
dont les gens se mettent en scène aujourd'hui, la transformation que ça implique dans les relations humaines, dans les relations amoureuses aussi. Donc
vous êtes désenchanté, vous ?
Je suis un peu désenchantée, mais je voudrais pas plomber l'ambiance.
Vous l'avez déjà plombé, il y a un libraire qui ne croit plus en l'amour.
on va trouver des solutions.
Bon, merci beaucoup Karine Tuile.
Merci à vous.
Merci d'être venue dans la librairie francophone Les Choses Humaines. Votre roman est paru chez Gallimard, un roman en lice pour le prix Goncourt. On n'en dira pas plus pour ne pas influencer qui que ce soit ni porter la poisse. Bonne chance Karine.
Merci.
À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et avant de conclure, coup de pouce à une jeune artiste francophone. Voici l'artiste Aloïse Sauvage.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque, les fous prennent tous les risques. Les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Fièvre, tremper ses lèvres.
appuyer sur ma clavicule, légèrement tourné vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps.
C'était Aloïse Sauvage avec À l'horizontale, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Jérémy Guillon. Merci Karine Thuil, merci Jean-Marie Gouriot, merci Jean-Michel Ribes. À bientôt, à la semaine prochaine du coup, parce que vous voulez revenir. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, Abdourahmane Waberi, Pia Moustaki, Alexandre Labruf et un reportage sur les coulisses de la rentrée littéraire avec Héloïse Dormesson. Passez un bon week-end, une belle semaine. Salut.